Et tout de suite, vous retrouvez Anne Verdaguer pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous. On revient aujourd'hui sur le séisme qui a touché le nord-ouest d'Haïti samedi soir. Le dernier bilan est de 17 morts. La polémique enfle sur le manque de moyens pour la prise en charge des blessés et sur le manque de préparation des autorités pour faire face à l'urgence 8 ans seulement après la catastrophe de 2010. Dans la revue de presse, on vous parlera de la prestation de serment aux États-Unis du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême dans un climat tendu et puis aussi de la mort de l'opposant Fernando Albán au Venezuela, celui qui est accusé d'avoir commis un attentat contre le président Maduro. Les autorités parlent d'un suicide. Et puis du jazz pour terminer cette demi-heure ensemble, on ira à la rencontre du saxophoniste Joey Homicile. Bienvenue à tous. En Haïti, le dernier bilan officiel du séisme qui a touché le nord-ouest du pays samedi soir fait donc état de 17 morts et de plus de 350 blessés. Devant l'urgence de soigner les personnes sinistrées, les autorités affirment avoir la situation sous contrôle, mais au plus près de l'épicentre, les habitants de Port-de-Paix, la principale commune touchée, ne cachent pas leur colère. Samedi soir, ils ont trouvé l'hôpital public déserté, faute d'électricité. Le reportage sur place d'Amélie Baron.
À l'hôpital Immaculée Conception, une première tente a été dressée sur la cour pour accueillir les blessés du séisme, mais c'est très loin de suffire. Et face à la précarité des soins, François Lubenson, un jeune de la ville, ne mâche pas ses mots contre le pouvoir.
Devant les yeux du monde, tout le monde a vu ce qui s'est passé. On n'a pas d'État, on n'a personne qui nous soutient. Plusieurs personnes sont mortes ici à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de docteur ou qu'ils n'avaient rien pour soigner. L'hôpital est endommagé et aucun officiel n'est encore venu ici. Le président est venu dans la ville et il n'a pas visité l'hôpital. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit non, il faut que ça cesse. On est tous des Haïtiens. Eux prennent le pays et gardent les profits pour leur petit groupe. On n'a pas à vivre comme des animaux. On est un peuple, on doit vivre comme toutes les nations à travers le monde. Il faut qu'on vive.
Nous pas qu'à vivre dans coup bête, nous même son peuple, nous et tout, faut nous vivre même avec toute peuple, toute nation nous même. Faut nous vivre.
Dans les rues du centre-ville tout comme dans les quartiers pauvres en périphérie, les sinistrés du séisme sont désabusés. Ils n'espèrent pas même une aide quelconque, mais s'activent déjà pour se relever et reconstruire sans l'État, comme à leur habitude. Amélie Baron, Port-de-Paix, RFI.
Et cette situation en Haïti rappelle bien sûr celle vécue lors du précédent séisme en 2010, même si l'ampleur bien sûr n'est pas la même. Le pays ne semble toujours pas préparé à ce genre de catastrophe. On retrouve à présent Godson Pierre, notre partenaire d'Alter Press en Haïti. Hormis les dégâts matériels, eux aussi importants, Godson, la population est sous le choc.
168 constructions ont été détruites et 2280 autres endommagées. Également, traumatisme énorme 8 ans après le puissant séisme du 12 janvier 2010 qui avait fait des centaines de milliers de morts et blessés. Aujourd'hui, la peur est palpable au moment où l'on enregistre des répliques dans les départements de l'Artibonite du Nord et du Nord-Ouest. Les gens sont très paniqués selon les témoignages recueillis. La plupart des habitants préfèrent rester dans la rue. D'autres, plus rares, demeurant encore dans leur maison, laissent les portes grandes ouvertes pour qu'ils puissent facilement évacuer en cas de réplique.
Et les secours se mettent en place petit à petit en Haïti malgré le manque de moyens.
Tout au moins, les autorités assurent qu'elles prennent toutes les dispositions pour organiser les secours. Deux unités du corps du génie militaire des forces armées remobilisées par le président Jovenel Moïse, dont l'une à Port-de-Paix au nord-ouest et l'autre à Gros Morne dans l'Artibonite, sont déployées de concert avec la protection civile. Le ministère des Travaux publics a dépêché les équipes qui ont commencé à déblayer la commune de Gros Morne, très affecté. De notre côté, le Premier ministre Jean-Henri Séan multiplie les rencontres, notamment avec les bailleurs et humanitaires. Le gouvernement entend assurer la coordination de l'aide et rompre ainsi, affirme Séan, avec la manière dont les choses se sont déroulées à la suite du terrible tremblement de terre de 2010. Les États-Unis, les Nations Unies et la francophonie ont adressé des sympathies aux victimes et à leurs parents. La secrétaire générale sortante de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, d'origine haïtienne, appelle la communauté internationale à soutenir rapidement et de façon concrète les victimes du tremblement de terre. La communauté internationale devrait également contribuer à renforcer les capacités d'Haïti dans les actions de préparation et de prévention des catastrophes naturelles, encourage Michaël Jean dans un communiqué.
Et puis au milieu de cette actualité tourmentée en Haïti, l'épineuse question de l'augmentation du salaire minimum journalier intervenue hier risque de passer inaperçue, Godson.
Le risque est là en effet, mais le passage du salaire minimum journalier de 350 gourdes environ 4 euros à 420 gourdes, soit un peu plus de 5 euros, n'a pas laissé indifférents les milieux ouvriers. Manifestation ouvrière perturbée hier à Port-au-Prince, les ouvriers et ouvrières réclament de préférence un salaire minimum journalier de 1000 gourdes. Même revendication dans le nord-est où un arrêt de travail a été observé par les travailleurs et travailleuses de la compagnie de développement industriel Codevi à Wanamette.
Merci Godson Pierre, notre partenaire d'Alter Press. Et on passe tout de suite à la revue de presse des Amériques avec Marie Normand. Bonjour Marie.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Au Brésil, les deux candidats, Jair Bolsonaro et Fernando Haddad, qui s'affronteront au deuxième tour de l'élection présidentielle le 28 octobre, sont déjà en campagne.
Oui, et la démocratie est désormais au centre des débats, se félicite au Globo. Les deux candidats se sont engagés à respecter la Constitution, rapporte Folia de Sao Paulo. Et Jair Bolsonaro, critiqué, vous le savez, pour ses prises de position autoritaires, a octroyé sa première interview post-électorale à la télévision TV Globo et il a assuré qu'il serait esclave, c'est le terme employé, esclave de la Constitution. Il a écarté les propos de son candidat à la vice-présidence qui évoquait, lui, la possibilité qu'un président fasse un coup d'État.
Et Fernando Haddad, poulain de Lula pour le Parti des Travailleurs, a lui aussi répondu à TV Globo.
Mais il a assuré qu'il renonçait à l'idée d'une assemblée constituante comme il l'avait évoqué lors de sa courte campagne, précise Folia de Sao Paulo. Pour l'éditorialiste de O Globo, le candidat du PT aura plus de mal que son adversaire à convaincre. Alors chacun affûte sa stratégie. En ce moment, Jair Bolsonaro continuera à attaquer la corruption au sein du PT et Fernando Haddad devra éviter de rendre visite à Lula dans la prison de Curitiba. C'est la conclusion de Correio Brasiliense.
On part maintenant en Floride. Marie, l'ouragan Michael se rapproche des côtes.
Oui, et il s'intensifie rapidement. Il devrait être un ouragan de catégorie 3 lorsqu'il touchera demain les côtes américaines. C'est la Floride qui est la première visée, en particulier la Panhandle, c'est-à-dire les 16 comtés les plus à l'ouest de cet État. Ce pourrait être le plus gros ouragan à toucher cette région depuis l'ouragan Ivan en 2004. Le Tampa Bay Times explique que contrairement à la plupart des ouragans qui se développent dans l'Atlantique et mettent des jours à atteindre les côtes des États-Unis, eh bien Michael, lui, a gagné en puissance en Amérique centrale, ce qui donne moins de temps aux habitants de Floride pour se préparer.
On reste aux États-Unis, Marie, avec cette prestation de serment.
I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear.
C'était hier, le juge Kavanaugh est devenu le 9e juge de la Cour suprême, Marie.
Et Donald Trump a célébré cette victoire en président. La cérémonie, écrit le Washington Times, le président s'est d'ailleurs excusé auprès de lui pour, je cite, « la campagne de dénigrement menée par les démocrates », poursuit ce journal conservateur. Une cérémonie lors de laquelle, selon The Hill, Donald Trump a proclamé le juge innocent des faits d'agression ou d'inconduite sexuelle dont il est accusé par plusieurs femmes.
Avant de quitter les États-Unis, un mot de cette photo en une du New York Times.
Oui, deux yeux en amande, une bouille d'enfant de 2 ans accrochée à sa poupée. Elle était si petite le jour de l'audience devant le tribunal de l'immigration de New York qu'il a fallu la hisser sur sa chaise. Et elle s'est mise à pleurer quand l'assistante sociale s'est éloignée car c'était la seule personne qu'elle connaissait dans la pièce. Pour Fernanda, c'est le nom de cette petite fille, le parcours du combattant a commencé lorsqu'elle a été retirée à la frontière du Texas au mois de juillet, à l'une de ses grand-mères venues du Honduras pour demander l'asile. Depuis leur séparation, le reste de la famille tente en vain de récupérer l'enfant. Elle se heurte en fait à l'encombrement des services américains de l'immigration. Et ce jour-là, eh bien, la juge leur a finalement donné raison, raconte le New York Times. La petite de 2 ans pourra donc retourner au Honduras et retrouver les siens. Mais on ne sait même pas si elle l'a compris. Elle n'a rien dit à ce moment-là. Elle était le numéro 26, explique le journal, sur les 30 enfants de 2 à 17 ans que cette juge devait rencontrer.
Direction enfin le Venezuela. Marie, les autorités annoncent qu'un opposant, Fernando Albán, s'est suicidé au siège du SEBIN, les services de renseignement, où il était emprisonné. Il était suspecté d'avoir participé à l'attentat contre le président Maduro.
Et comme d'habitude, Anne, deux versions s'affrontent. Le parti de Fernando Albán, Primero Justicia, parle d'un assassinat. Il demande, rapporte El Nacional, que le corps ne soit pas incinéré avant une nouvelle autopsie. Et tal quoi met le mot suicide entre guillemets et cite une organisation de défense des droits de l'homme pour qui la version officielle est difficile à croire car les détenus du SEBIN ne sont jamais seuls à aucun moment. Ultimas Noticias, un journal proche du gouvernement, annonce qu'une enquête a été ouverte. Une enquête que l'archidiocèse de Caracas souhaite objective. Il souligne que Fernando Albán était un homme aux valeurs chrétiennes fortes et que la version des autorités vénézuéliennes laisse planer, je cite, des doutes raisonnables.
On suivra cette histoire. Merci beaucoup Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. Et nous allons à présent à la rencontre d'un saxophoniste qui va nous parler d'amour, le saxophoniste Joey Omicil, né à Montréal de parents haïtiens. Il sort un album intitulé Love Matters. Il sera d'ailleurs en concert ce jeudi soir à Paris au New Morning. Un album éclectique tourné vers l'Afrique. Joey Omicil est au micro de Sébastien Gédor.
Bonjour Joey Omicil.
Bonjour, bonjour, bonsoir.
Sur cet album Love Matters, on entend du groove caraïbéen, un hommage à Thelonious Monk, on entend des notes de Mozart, on entend une berceuse.
Tous les styles vous intéressent?
Tous les styles m'intéressent, du classique au gospel, et puis du rock au heavy metal, et puis même le punk. J'ai pas de limite quoi, j'aime la musique.
Mandelolo, c'est le premier titre de l'album Love Matters.
Yes.
Et là, vous célébrez les racines africaines du jazz. D'ailleurs, le clip a été tourné en Guinée, à Conakry. C'est là que vous avez retrouvé les racines vraiment africaines du jazz?
Les racines africaines, je suis constamment à la quête, à la recherche d'elles. C'est pas facile, mais j'ai passé beaucoup de temps avec Tony Allen sur son dernier groupe, Hommage à Art Blakey. Puis aussi, j'ai beaucoup côtoyé des musiciens comme Azor, qui sont des fondateurs de la musique roots, sont des pionniers. Puis j'en passe, mais vraiment, cette racine-là de la Guinée qui vient de nos racines, nous, haïtiens, je suis né à Montréal de parents haïtiens, alors c'était tout à fait normal pour moi de me tourner vers la Guinée, ou bien d'aucuns me tourner vers le Congo, d'autres fois je me tourne vers le Bénin. On l'a vu, mon deuxième album, Roots and Groove, j'ai collaboré avec Lionel Loueke, c'est justement pour faire le lien à ces racines haïtiennes qui sont vastes, quoi. Même le Congo aussi, il faut y toucher. Alors, c'est pour cela qu'on a des musiciens, justement, qui sont du Cameroun, qui sont de Libéria, de la Martinique, de la Guadeloupe. Comme ça, on peut toucher à ses racines.
Le titre de l'album, c'est une déclaration d'amour à quoi et à qui?
C'est une déclaration d'amour à toi, à tout
exemple,
le monde.
Mais...
Par exemple. Pourquoi? Je pensais que c'était quelque chose de très important de parler de l'amour et puis de dire que l'amour compte. Pourquoi? Parce qu'on dit que Black Lives Matter, Yellow Lives Matter, White Lives Matter, ok, All Lives Matter.
Vous faites référence au mouvement contre les violences policières
maintenant,
aux États-Unis.
Aujourd'hui, je fais référence à ce mouvement-là parce que c'est l'actualité. Mmh. Mais moi, je suis plus dans un endroit où ce que j'aimerais bien rassembler les gens sous ce même parapluie, qu'on se le dise et puis qu'on se le démontre, que l'amour compte, effectivement.
Vous auriez pu ne jamais jouer de jazz, jouer au missile.
Oui.
Vous auriez pu être tout autre chose, joueur de hockey sur glace, il paraît.
Ouais, ou bien joueur de ping-pong, ou bien joueur de billard.
Vous avez été sportif de haut niveau.
Basketball, ouais, j'ai beaucoup joué des sports, mais comme vous pouvez le voir, ma petite taille était pas à mon avantage. J'avais la rapidité, j'avais l'agilité, mais j'avais jamais le gabarit. Alors, c'est pour cela que j'ai abandonné les patins sur glace et j'ai laissé mon gant de baseball pour m'adonner à la musique dès l'âge de 15 ans. C'était juste une progression logique pour moi parce que à cette période-là, il faut jamais oublier que c'était la période des Sega Genesis, Super Nintendo. Alors, j'ai vite fait de remplacer mes jeux vidéo par le saxophone alto.
Merci, Joey Omissi.
Merci à toi, Sébastien.
Voilà, c'était donc Joey Omissi pour Love Matters en concert jeudi soir au New Morning à Paris.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal La Première Caraïbe à présent présenté aujourd'hui par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
Et comme le dit la formule familière, il ne manquait plus que ça, car après les algues brunes, les sargasses, voici qu'arrivent dans la mer des Caraïbes les algues vertes.
Et oui, le vert, c'est évidemment plus joli et plus marin, entre guillemets, que le brun, mais c'est tout aussi nauséabond et envahissant, et les Bretons le savent bien. Bref, depuis le passage de l'ouragan Irma, ces algues vertes se développeraient abondamment dans les baies de l'île de Saint-Martin. Éric Lefebvre, La Première Guadeloupe.
S'il s'agit avant tout d'un phénomène saisonnier lié aux pluies qui lessivent les sols et mènent à la mer des matières organiques qui accélèrent la prolifération de cette algue, les observateurs s'accordent sur le fait que cette année, Caetomorpha sp est bien plus présente que les années précédentes. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. En se dégradant, l'algue brune, sargasse, favoriserait le développement de l'algue verte, d'où la présence forte de l'algue filamenteuse dans les baies impactées par les sargasses. Facteur aggravant, l'assainissement, qui connaît des défaillances à Saint-Martin depuis le passage d'Irma. Seules 3 stations sur les 6 présentes sur le territoire sont opérationnelles. Or, de ces difficultés résulte la présence de matières organiques dans les eaux côtières de l'île, une présence révélée par les algues vertes filamenteuses qui prolifèrent. Enfin, tout comme pour les sargasses, la déforestation et l'agriculture en Amazonie contribuent à l'enrichissement des rivières en sédiments qui finissent à la mer, où elles favorisent à leur tour la multiplication des algues.
On reste en Guadeloupe avec cette grande première. Les responsables du syndicat mixte de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, en abrégé CARL, ont mis en service un bus électrique sur le territoire de la commune du Gosier. Patrick Jean-Charles est responsable du transport urbain à la CARL. Il est au micro d'Hervé Pédurand.
Les élus du syndicat mixte des transports ont souhaité jouer la carte de l'environnement. Évidemment, cela sous-entend que les bus électriques, comme c'est, ça ne pollue pas et ça n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre, sont dans ce sens, ça va dans ce sens. Par contre, en attendant le mix énergétique attendu, puisqu'il est question que la production d'énergie en Guadeloupe évolue, les élus ont souhaité faire ce test, cette expérimentation pour être prêts au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de recul et pas d'expérience sur l'utilisation de matériel électrique, mis à part des petits véhicules électriques. Mais les bus électriques, c'est la première fois en Guadeloupe qu'on pourra tester un bus électrique et voir ce qu'il vaut sur le terrain et sur la durée.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Luna Timbal à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, 12h10, heure de Paris, 14h10, heure de Paris, 12h10, temps universel. Restez avec nous dans une poignée de secondes, le retour de l'information sur RFI.
De la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité.
Aujourd'hui,
Comment déchiffrer le monde en toute liberté? Regard croisé de mathématiciens et de physiciens sur l'indispensable liberté de la recherche et des savants mélanges à inventer pour la préserver.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Du lundi au mercredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.